Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
L'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux,
bonjour à tous. Et à la une encore ce matin, les conséquences de l'affaire Liana.
Et un nouveau rapport accablant qui pointe du doigt, vous verrez, le manque de moyens de la justice. L'affaire Jubilar aussi, au lendemain de la découverte d'ossements, là où Cédric Jubilar dit avoir enterré le corps de son épouse il y a presque 6 ans. Et on va vous donner dans ce journal aussi les toutes dernières infos sur l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Il y a donc de nouvelles révélations ce matin dans l'affaire Liana et toutes ses conséquences.
Oui, un deuxième rapport d'inspection pointe les délais manifestement excessifs, je cite ce rapport, et un manque de moyens également dans l'enquête sur de précédentes accusations impliquant le mis en cause Jérôme Barella. C'est l'affaire dite Rosa à Béthune dans le Pas-de-Calais, avant donc l'affaire Liana. Et en fait, Constance Bostoen, du début à la fin, il n'y a rien qui va.
Du renvoi inexpliqué du dossier de parquet en parquet aux 10 longs mois pour qu'un service d'enquête soit enfin saisi pour qu'au final la plainte soit classée sans suite sur un simple compte-rendu téléphonique. Les pratiques interrogent, d'autant que les auteurs du rapport soulignent un autre raté, technique celui-ci. En mars 2026, l'aide sociale à l'enfance signale des agressions relatées par deux mineurs contre Jérôme Barella, mais ce signalement, considéré comme un spam par le logiciel de messagerie du parquet, n'est jamais parvenu aux magistrats concernés. À ce stade, deux pré rapports ont été remis au ministre de la Justice. Un autre, global et détaillé du traitement des procédures judiciaires dans le cadre de l'affaire Liana, devrait être rendu dans le courant du mois de septembre.
On savait qu'on sous-traitait les affaires de violences sexuelles sur mineurs. Ça, c'est ce que dit ce matin la procureure générale de la Cour d'appel de Lyon, parmi toutes les voix qui s'élèvent en ce moment après le réexamen, vous savez, des 70 000 procédures.
Autre affaire, et peut-être même le dénouement, près de 6 ans après la disparition de Delphine Jubilar.
Oui, puisque Cédric Jubilar, récemment passé aux aveux, a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il dit avoir enterré le corps de son épouse dans le Tarn, à savoir un champ à 10 km de leur village de Cagnac-les-Mines, où des ossements ont donc été retrouvés hier dans ce champ. Écoutez ce qu'on en dit sur place avec notre envoyé spécial Pierre Bazin.
À Cagnac-les-Mines, l'annonce de la découverte des ossements a secoué le village et ses habitants, notamment ceux qui ont participé aux toutes premières recherches, comme Jean-Louis Barraud, le premier adjoint. Il a été d'autant plus surpris qu'il connaît très bien l'endroit où les os ont été retrouvés.
Nous, on y est passé X fois. Sans penser qu'il y aurait encore enterré là, quoi, dans ce bord de bois où il y a une vieille maison en ruine. Jamais de la vie.
Près du domicile familial où demeurent des fleurs, des petits mots et le portrait de Delphine, Christophe, un voisin, confie sa stupeur face à ces nouveaux éléments. Hier, le quartier s'est emmuré plus encore dans le silence.
Dans le voisinage, on ne parle pas. Il est temps que ça se termine. Il y a eu plein de rebondissements, de mensonges et de trahisons aussi envers la population gagnacoise qui a fait des recherches en 2020 pour retrouver le corps. Donc, qui disent enfin la vérité.
Une position que partage le maire de Cagnac-les-Mines. Patrice Norkowski espère que les dernières investigations permettront de refermer une plaie restée béante bien trop longtemps.
C'est vrai que ça a bouleversé la commune, hein, même moi-même, hein, puisque bon, je connaissais la famille. Je crois qu'on en a tous besoin d'avoir un dénouement de l'histoire, quoi, ça c'est clair.
Avancer et tourner la page, nous disent certains habitants, en espérant que l'affaire ne connaisse pas un énième rebondissement.
La liste s'allonge. Il y a bientôt plus de place, hein, sur cette liste. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve qui déclare sa candidature à l'élection présidentielle, mais alors sans passer par la primaire socialiste. Les orages ont fait des dégâts hier soir, notamment dans la Loire. On en parle ce matin où une tornade a traversé l'autoroute à 72 et couché deux camions au nord de Saint-Etienne, 600 interventions de pompiers, 8000 foyers sans électricité ce matin d'après la préfecture. Il y a 10 départements du sud-est qui sont toujours en alerte orange pour la canicule, c'est pas terminé, les fortes chaleurs à l'origine d'une grosse panne de courant hier d'ailleurs à Marseille dans le secteur du Vieux-Port, les câbles ont chauffé, explique Enedis, provoquant les fermetures des tunnels de la Majeure et du Prado Carénage. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est la réouverture de l'autoroute A6 qui était coupée depuis dimanche dernier au niveau de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne à cause de l'incendie qui a touché cette forêt. C'était l'objectif, hein, le rouvrir aujourd'hui pour le départ en vacances, les départs en vacances. C'est cette journée qui est classée orange au niveau national et même rouge dans la moitié est.
Justement, cette période de départ en vacances, la Fondation Vinci Autoroute alerte encore une fois sur les risques d'accidents provoqués par la somnolence au volant.
Mais écoutez ces chiffres, la fatigue responsable d'un accident sur 5 sur la route et c'est même 2 fois plus chez les conducteurs qui prennent la route fatigués ou qui ont un sommeil irrégulier. D'où l'intérêt de faire des pauses, nous dit Alexandre Thibault pour RMC.
Virginie se gare sur le parking de l'aire de repos après une demi-heure de route.
J'ai bu, j'ai mangé un truc. Le fait de plus avoir la tension nerveuse de la route, ça va tout de suite mieux. Vaut mieux arriver entier que dans une boîte, quoi.
Elle n'hésite plus au moindre signe de fatigue depuis une première frayeur au volant.
Même en conduisant, on a tendance à fermer les yeux quelques secondes.
15 minutes de pause et c'est reparti. Garée juste à côté, Marie-Noël fait la route des vacances toute seule.
J'ai de la musique en permanence.
pas très très forte, mais j'ai de la musique tout le temps.
D'autres mêlent l'utile à l'agréable pour rester éveillé.
Je discute aussi du projet d'achat d'une maison avec ma femme. Ça permet de passer le temps et avoir un bon copilote.
Mais la seule astuce qui fonctionne vraiment reste de faire une vraie pause.
Dès qu'il y a un signal de somnolence, il faut vraiment pas insister.
Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste des troubles du sommeil.
Il faut trouver une aire de repos, un endroit où on peut s'arrêter et sortir de la voiture, bouger un peu. On s'arrête un petit peu plus loin pour boire un café, ensuite faire une petite sieste, mais surtout pas continuer à conduire.
Elle précise que la sieste n'a pas besoin d'être longue, 10 minutes suffit généralement.
Et on va vous accompagner peut-être un peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui. Si vous êtes sur la route et que vous êtes branché sur RMC, vous venez nous dire comment vous luttez, vous, contre la fatigue au volant. C'est pas toujours facile de s'arrêter toutes les deux heures quand on a la pression des enfants qui veulent arriver vite. Vous nous racontez tout ça au 3216 et sur le WhatsApp au 0612 424 424.
Vous pouvez aussi écouter l'intégral tour. Ce sera l'étape la plus longue du Tour de France. Aujourd'hui, 206 km entre Dole et Belfort. On arrive dans les Vosges. La route s'élève à nouveau avec le Ballon d'Alsace au programme aujourd'hui à 30 km de l'arrivée au lendemain de la troisième victoire d'étape du Belge Tim Merlier. C'était hier au sprint à Chalon-sur-Saône.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus sont arrivés à Miami dans la soirée.
Oui, ça y est, ils ont quitté leur QG de Boston à la veille de la petite finale contre l'Angleterre. Quel est l'état d'esprit des Bleus, Fabrice O'Keefe, vous qui les suivez au quotidien depuis un mois?
Depuis l'élimination et la défaite contre l'Espagne, déception et tristesse se font ressentir dans le groupe France. On a l'impression d'être passé à côté de quelque chose de grand, explique un cadre du groupe. Les joueurs doivent trouver les ressorts pour se relever. Didier Deschamps souhaite gagner son dernier match à la tête des Bleus contre l'Angleterre. Dans un premier temps, il était question de laisser la soirée d'hier libre aux joueurs qui avaient prévu de sortir en famille ou entre amis à Miami. Finalement, le staff a changé d'avis. L'encadrement des Bleus souhaite que tout le monde soit concentré. Pour ce match, le sélectionneur va faire tourner. William Saliba, qui souffre d'une fracture au dos comme révélé par RMC Sport, ne jouera pas, tout comme le gardien remplaçant Brice Samba, touché au mollet. Kylian Mbappé, qui est toujours à la lutte avec Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur, devrait lui tenir sa place. Comme en 2022, ce titre honorifique pourrait représenter son lot de consolation.
Le quintet, ce sera à Cabourg ce soir.
Dans la soirée, à 20h15, le 8. Et là, ce sont les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Le 8 en favori, Carnac Wood. Et l'As en outsider, Express Dark.
Merci beaucoup, Quentin Vinet.